Bonjour à tous. Bon matin. Et en cette journée de fête des mères, j'aimerais souhaiter la bonne fête à chacune des mères. Et puis, pour l'occasion, j'aimerais aborder un sujet un petit peu délicat. Le titre, c'est Est-ce que la Bible respecte les femmes? Il y a quelques années, je travaillais dans une école. Et puis avec une intervenante sociale, et puis un jour, sur l'heure du dîner, on avait eu l'occasion de parler un peu de la foi, puis elle m'avait fait comprendre assez clairement que pour elle, elle pouvait pas croire dans la Bible, parce que selon elle, la Bible dénigrait les femmes. Fait que j'ai pas eu l'occasion d'aller beaucoup plus loin avec elle, là. Et puis, mais ça m'arrive souvent quand je parle à des amis qui croient pas. Qui me reviennent avec ce verset-là, femmes, soyez soumises à vos maris, et puis cette notion-là que la femme est traitée comme une personne inférieure, de second rang, injustement. Et c'est sûr que ça me dérange quand j'entends ça. Il me semble que ben, que c'est pas l'intention. Mais c'est bon, je pense, d'apporter des réponses à ces questionnements-là. Il y a plusieurs des revendications féministes que je me dis, comme à travail égal, salaire égal. Je me dis, oui, c'est vrai, c'est juste. Le droit de voter qui a été obtenu pour les femmes. Mais est-ce que la Bible enseigne le contraire de ça? Et souvent, ce qu'on me dit, c'est que la Bible mentionne des choses terribles au sujet des femmes. Je dis, ben oui, c'est sûr. Mais elle les constate, ces choses-là. C'est pas qu'elle les valide ou les demande ou les approuve, ces comportements-là. Fait que, en tant que chrétien, je veux surtout me concentrer sur le Nouveau Testament plutôt que l'Ancien Testament. Et puis, j'aimerais ça qu'on regarde un certain nombre de versets qui soulignent l'importance, la dignité de la femme comparativement à l'homme aux yeux de Dieu. Qu'ils ont autant d'importance l'une que l'autre. Et puis, j'aimerais aussi prendre l'occasion de cette fête des mères pour essayer de répondre à certaines des accusations que les incroyants y font envers la Bible au sujet de la femme, et puis essayer de replacer ces textes-là dans leur contexte. Fait qu'au début, on va regarder différents passages que je vais essayer de lire dans leur entier. Parce que des fois, il y en a qui connaissent pas le contexte là, de l'histoire. Et puis, c'est des passages relativement bien connus. Et un des points où est-ce que je pense que c'est un signe de respect envers les femmes, c'est en rapport avec la naissance de Jésus, c'est que dans sa généalogie, il y a quatre femmes qui sont mentionnées. C'est un fait assez inhabituel pour les Juifs qui faisaient pas ça, mais dans le cas de Jésus, c'est ce qui s'est mentionné. Et puis, la naissance de Jésus, d'une femme, la Vierge Marie, et que Jésus était la descendance de la femme qui était promise dans le livre de la Genèse, et qui allait apporter un libérateur, qui allait écraser la tête du serpent. Et puis, on voit aussi que la jeune Marie a démontré plus de foi comparativement à Zacharie, le grand sacrificateur, quand l'ange leur a annoncé la nouvelle. À chacun, il y avait une nouvelle d'une naissance. Et on va voir aussi que dans Luc, souvent, il va parler d'un homme et d'une femme, et des fois, il fait la comparaison entre les deux, puis à chaque fois, c'est en faveur de la femme. Fait que si on continue, on a donc ici un des signes de respect, c'était au sujet d'Élisabeth, qui prophétise au sujet de Jésus, tandis que Zacharie, lui, le mari d'Élisabeth, le père de Jean-Baptiste, est muet en conséquence de cette désobéissance. Fait que le texte dit, dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. C'était aussi possible pour les femmes comme pour les hommes d'être remplies du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? » Il y avait aussi Anne, la prophétesse, on lit dans Luc 2, Il y avait aussi une prophétesse Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière, étant arrivée elle aussi. À cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Alors, c'est le jour où Jésus a été circoncis dans le temple, où est-ce qu'il a été rencontré par 2 personnes. Il y avait eu Siméon et aussi Anne. Donc, on mentionne Anne. Et puis, de penser que c'est important, c'était important pour Dieu que Anne soit là. Ce n'était pas un jour où elle était malade, absente. Non, elle était au temple, elle était disponible, et puis Dieu a pris soin qu'elle soit avisée, qu'elle soit informée, qu'elle soit présente. Pas seulement Siméon, mais qu'elle aussi, cette femme-là, puisse apporter des louanges à Dieu. on a l'histoire de la Samaritaine, où est-ce que Jésus a défié les attitudes de son époque envers les femmes, ce qui a même choqué ses disciples. Et la femme samaritaine qui était surprise. Fait que dans Jean 4, 9, où est-ce que là, on voit qu'il se promenait, ses disciples étaient partis acheter de la nourriture, et puis Jésus était resté seul à un puits. Et là, il rencontre cette dame-là, puis il lui adresse la parole. Dans le fond, même, c'est dit qu'il fallait qu'il passe par ce chemin-là, qu'il y avait comme un rendez-vous divin de rencontrer cette femme-là. C'est important pour lui. Et la femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? » Et on sait qu'envers elle, un autre fait surprenant, c'est que c'était la seule personne, il semble, à qui Jésus a dit directement qu'il était le Messie. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Là-dessus arriva à ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Mais pour Jésus, ce n'était pas déplacé. Et c'était important pour lui de lui communiquer les choses qu'il lui a dites. Toutefois, aucun ne dit à Jésus, « Que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle? » Un autre exemple, c'est de signes de respect envers les femmes. On a la pécheresse, la femme pécheresse. Ça se passe dans la maison d'un pharisien. Un pharisien, c'est quelqu'un qui appartient à une secte très stricte parmi les juifs et très pratiquante, une secte religieuse. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Elle se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et les oignit de parfums. Fait que les gens étaient assis un peu allongés, chacun accordé comme ça à l'entour du plat, principal, et puis là, en arrière, ben ses pieds étaient là, puis la femme va à ses pieds. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il saurait que c'est une pécheresse. » Et c'est vrai que ici l'homme, le pharisien, avait tous les atouts pour pouvoir paraître supérieure, et elle avait tout ce qu'il fallait pour une femme de mauvaise vie, et elle a un comportement qui peut paraître même indécent, mais que Jésus reçoit de sa part. Et là, il va justement faire la comparaison entre les deux, et c'est la femme qui, sous toutes les mesures, là, va paraître supérieure dans ce cas-ci. Si on continue verset 40, Jésus prit la parole et dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leur dette. Lequel l'aimera le plus? » Simon répondit, « Celui, je pense, auquel il a le plus remis. » Jésus lui a dit, « Tu as bien jugé. » Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, « Vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison. Tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle, elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis rentré, elle n'a point cessé de m'embrasser les pieds. N'a point versé d'huile sur ma tête, mais elle, elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu aime peu. Il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Donc elle s'en retourne pardonnée. Et Simon est repris pour son attitude. Et c'est certainement une marque qu'il y avait de la place dans le cœur de Jésus et un pardon pour les femmes aussi. Un autre signe de respect, c'est que Jésus accepte leur aide. On lit dans Luc 2, 8-2, les 12 étaient auprès de lui avec quelques femmes qui étaient disciples, non pas parmi les 12, mais qui étaient quand même ses disciples, qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Parce qu'elles étaient importantes pour Jésus. Marie dite de Magdala, de laquelle était sorti sept démons, Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien, que Jésus acceptait ces dons-là et que ça l'a contribué, donc elles avaient un rôle à jouer. Dans Jean 19, on lit « Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la mère de sa mère, et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, Marie de Magdala. Jésus voyant sa mère auprès d'elle, et le disciple qui l'aimait dit à sa mère, « Voilà ton fils. » Donc, la présence de ces femmes-là a été soulignée aussi dans l'Évangile. On a plusieurs enseignements où est-ce qu'il y a... des femmes qui figurent là, et puis c'est quand même aussi assez rare dans la société juive qui était dominée par les hommes, de porter autant d'attention aux femmes dans les enseignements. Fait que quand Jésus critique les gens de Nazareth en prenant la veuve de Sarepta en exemple, on lit, mais ajouta-t-il, parce que là il était dans son village, les gens le rejetaient, et avec qui est-ce qu'il les compare? Il y a eu un homme avec qui il l'a comparé, puis maintenant aussi il prend l'exemple de la veuve de Sarepta. Mais ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël, au temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon, de qui Dieu a pris soin. Dans la parabole de la brebis perdue, la brebis perdue, il y a le fils perdu, mais il y a aussi une histoire d'une femme. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes, donc elle avait perdu une pièce d'argent, et là Jésus l'utilise, cet exemple-là, qui met en scène une femme, et si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, n'allume pas une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Lorsqu'elle l'a trouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Et donc, de prendre l'exemple d'une femme, que c'est important, que ça fait partie, parce qu'elles sont importantes, ça fait partie de l'humanité, et pour qui la repentance est annoncée aussi. Jésus a fait plusieurs miracles en faveur de femmes. On a ici l'histoire d'une femme possédée d'un esprit. Dans Luc 13, Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat, et voici, il y avait une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole. Pour lui, c'est important. Et peut-être que c'était facile à ignorer, surtout le jour du sabbat, où est-ce qu'on ne devait pas faire de travaux, comme une guérison. Lorsqu'il la vit, il lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour du sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. » Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. Et regardons la suite. Jésus qui reprend, encore là on voit un contraste de fait entre le chef de la synagogue, un homme, et cette femme-là pour qui Jésus avait eu de la compassion. Il lui dit, hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous le jour du sabbat ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener à boire, et cette femme qui est une fille d'Abraham. Donc, il parle de sa dignité, comme tous les autres Juifs qui étaient des descendants d'Abraham. Mais elle, c'était une fille d'Abraham, même si elle était possédée, même si elle était infirme. Qui est une fille d'Abraham et que Satan a tenu liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? C'est important pour lui qu'elle soit guérie. Et là, il y a plusieurs autres récits, on s'épuiserait là, à toutes les nommer, tellement qu'il y en a. Quand il guérit la belle-mère de Pierre, qui guérit le fils de la veuve de Naïn, il y avait eu compassion, que c'est dit dans le texte, pour cette femme, pour qui c'était son fils unique. Jésus guérit la femme qui avait une perte de sang et qui souligne sa foi, la foi de cette femme-là. Jésus guérit la fille du chef de la synagogue. Jésus pleure avec Marthe et Marie et ressuscite leur frère. Il aurait pu être indifférent à cette cause-là, mais non, c'était ses amis. Et les femmes sont les premiers témoins de la résurrection. Là, il y a une petite erreur, là, mais Jésus défend Marie assise à ses pieds, quand Marthe demande de l'aide. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire. Marthe et Marie, qui sont deux sœurs, reçoivent Jésus et ses disciples. Et puis Marthe est à la cuisine, très occupée. Et puis Marie, elle reste aux pieds de Jésus, un peu comme un disciple. Peut-être on aurait pu dire dans cette société-là le rôle des boys, des hommes, de rester dans le salon puis d'écouter les enseignements. Mais elle décide de rester dans le salon et puis parce que c'était trop important. Et Marthe fait son entrée puis là dit, Seigneur, ça ne te dérange pas que ma sœur me laisse toute seule en cuisine. Et puis Jésus qui défend Marie. Elle avait sa place. Marie a choisi la bonne part qui lui sera ôtée. Et donc, dans ce rôle-là de disciple, Jésus l'approuvait. Il n'a pas dit, écoute Marie, là, c'est vrai, là, c'est assez ton break, retourne-donc dans ta cuisine et puis prends donc tes responsabilités avec ta sœur. Et puis, laisse les boys tranquilles. Là, hein? Pas du tout. Et... Il l'a gardé auprès d'elle et puis c'était important pour lui de l'avoir auprès d'elle. Excusez. Un autre exemple, c'est Jésus qui parle aux femmes de Jérusalem sur son chemin vers Golgotha. On est conscient de l'histoire, là, où est-ce que les femmes le prennent en pitié, puis là, Jésus, il dit pas, elle est fatigante, là, t'sais, achalez-moi donc pas, vous voyez bien que c'est dur pour moi ici, là. Mais non, il prend le temps, en portant sa croix, la couronne d'épines sur la tête, à répondre à leur intervention, parce qu'elles étaient importantes pour lui. Et puis, comme j'avais mentionné, Jésus se révèle d'abord à des femmes après sa résurrection, mais les disciples ne les croient pas, même après avoir été au tombeau, mais les femmes avaient cru. On va lire un peu l'histoire ici. Il est vrai que quelques femmes, ça c'est quand les deux disciples d'Emmaüs ont rencontré Jésus, et les disciples racontent à Jésus qu'il y avait quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il était vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre. Ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dites, et ses premiers témoins. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence, donc en contraste, et dont le cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Puis là, il leur a expliqué les Écritures. Mais c'était donc à des femmes qui s'est révélée en premier, et elles avaient cru ce qu'elles avaient constaté. Et puis même dans les lettres de Paul, on voit ici dans ce passage-là, il n'y a plus de Galates 3, 28, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et puis qu'aux yeux de Dieu, c'est pareil, c'est aussi important. Les différences n'étaient plus là. Tout le monde était un en Jésus-Christ. Mais c'est sûr que dans la vie pratique, les gens étaient esclaves pareil. Ni esclaves, ni libres, mais oui, mais il y en avait encore qui étaient esclaves. Et dans la vie pratique, il y avait aussi des hommes, puis il y avait des femmes, puis des juifs, puis des grecs. Mais aux yeux de Dieu, ces différences-là étaient parties. Et ça soulève là, un petit peu la question. On voit le contexte, oui, il y a beaucoup de choses favorables qui reconnaissent la dignité des femmes à même titre que celle des hommes. Mais il y a encore les questions quand même. Pourquoi? Pourquoi n'y a-t-il pas de femmes parmi les 12 disciples de Jésus? Ou parmi les gens qui ont écrit la Bible? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de femmes parmi les anciens ou les pasteurs qui enseignent l'Église ou qui exercent l'autorité dans l'Église? Pourquoi ces fonctions sont-elles réservées aux hommes? Est-ce qu'il n'y avait pas des femmes capables d'être des disciples, d'écrire des livres, d'être des pasteurs et des enseignantes, aussi bien que beaucoup d'hommes? Pourquoi est-ce que la Bible dit qu'il faut que la femme soit soumise à son mari, comme au Seigneur? C'est sûr que c'est des questions qui sont dérangeantes, puis là, je ne veux pas juste irrité en nommant ces questions-là, ou je sais que c'est un sujet très explosif, je ne veux pas créer de la révolte face à ce qui semblerait être une injustice. Ce que j'entends souvent face à la question « Pourquoi, femmes, soyez soumises à vos maris? » Puis on répond « Oui, mais ce qui est demandé à l'homme, c'est encore plus. » C'est que l'homme aime sa femme comme Christ s'est livré lui-même pour elle. Et que c'est encore plus sacrificiel que la simple soumission. Et certains m'avaient déjà répondu, oui, mais pourquoi est-ce qu'il n'y aurait simplement pas de soumission, puis pas se livrer, puis juste se respecter, puis s'aimer les uns les autres comme dans un couple sans qu'il y ait besoin de soumission? Et je pense que c'est une bonne question, mais qu'il y a des bonnes réponses pour ça aussi. Et comme je disais, ça me ferait de quoi s'il y avait une injustice dans la Bible. Et je pense que il devrait pas avoir, comme les féministes le demandent, de plafond de verre où les femmes compétentes peuvent pas accéder à des responsabilités simplement parce qu'elles sont des femmes, ou que des Noirs peuvent pas accéder à des responsabilités, ou que même peut-être des homosexuels peuvent pas à cause de quelque chose d'autre que leurs compétences. Et que je devrais, moi, me soumettre, si je vois une femme policière ou juge, que ben oui, c'est correct. Et donc, si on revient, c'est ça la question, pourquoi est-ce que dans la Bible, on demande ça? Parce que c'est quand même demandé. Et j'aimerais ça qu'on regarde le texte. Plus précisément, et je pense que ça apporte des solutions. Et d'abord, j'aimerais ça qu'on regarde les phrases que j'ai mises en bleu. Où est-ce que ça fait une comparaison? Ça dit « comme au Seigneur, comme Christ est le chef ». Il fait toutes les choses qui sont demandées, la justification, c'est parce que c'est l'exemple que Christ nous a donné comme Christ est le chef de l'Église, de même que l'Église est soumise à Christ. Et c'est, ça prend pour modèle, pour explication, pour raisonnement, de dire parce que c'est comme ça entre Christ et l'Église, ça doit être comme ça entre l'homme et la femme. Et bon, je ne pense pas que ça force le texte là, de dire ça, qu'il y a, dans la relation conjugale entre un mari et une femme une image, un modèle, une métaphore, une comparaison de la relation entre Jésus et l'Église. Et donc, comme Christ a aimé l'Église, et si on continue dans la suite du texte, c'est ainsi que le mari doit aimer sa femme, la même chose, comme le Christ le fait pour l'Église. J'ai dit cela par rapport à Christ et à l'Église. Fait qu'on voit que tout au long du texte, à chaque verset presque, il fait une comparaison, un rapprochement entre ces deux principes-là. Et que c'est bon à se rappeler dans la structure du texte qu'on va expliquer. Et puis, de voir que le fait que Christ a aimé l'Église, que la relation qu'il veut entre Dieu et les croyants, c'était déjà comme ça dans l'Ancien Testament. Car ton Créateur, c'est dans Ésaïe 54, est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Et de penser, c'est ça, que déjà Dieu voulait une relation d'époux avec Israël, et que comment que ça se concrétise ça, c'est que Dieu se fait homme et vient dans la personne du Fils pour avoir une relation, une intimité avec le croyant. Fait que j'ai marqué ici, le concept du couple représente l'intimité que Dieu désire avec le croyant. Puis on la retrouve ici dans Luc 5, 34. Il leur répondit, « Pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux? » Fait que Jésus s'identifiait dans cette position-là de l'époux, comme dans l'Ancien Testament, que c'était lui l'époux qui venait pour rencontrer son peuple. Dans Jean 3, 29, c'est Jean-Baptiste qui parle et qui lui constate que Jésus, l'époux, est maintenant présent. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux, ça c'était Jean-Baptiste, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Et Jean-Baptiste était très content de voir, d'entendre la voix de l'époux. Et dans le texte qu'on vient de lire, ça dit « Ce mystère est grand, j'ai dit cela par rapport à Christ et à l'Église ». Son épouse. Il y a une représentation là qui est dans plusieurs passages de la Bible. On la retrouve aussi même dans l'Apocalypse. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée. Fait que l'agneau, Jésus, va avoir une épouse et que la relation donc de couple à pointe dans la direction de cette réalité-là. La relation, c'est juste une image qui pointe vers la réalité des noces de l'agneau avec son épouse. Fait que donc, si on revient au texte, on va le lire pas trop vite et on va essayer de voir là, qu'est-ce qu'il y en est. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ, donc une soumission mutuelle. Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. C'est sûr que si on lit ça comme ça, d'être soumis à un homme entre deux humains, que un soit appelé à se soumettre à un autre humain, une autre créature, comme au Seigneur. Ça dit un peu plus loin, j'ai mis en mot aussi, en toute chose. Ça serait presque blasphématoire de donner cet honneur-là, cette soumission-là, comme au Seigneur, mais seulement à un autre être humain. Et donc, je pense que c'est un des indices qui fait valoir que ça pointe vers une autre réalité. Ça, c'est que la relation de couple est juste une image qui pointe vers la réalité qui devrait se vivre entre l'Église et Jésus. Mais continuons. Car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, à cause de tout ça, c'est ça la justification du comportement de soumission. Les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Et peut-être que la réalité est difficile à vivre et que même il y a des femmes chrétiennes dans un mariage chrétien qui doivent se dire « Oh, là, je dois faire la différence. Dois-je obéir à un homme plutôt qu'à Dieu? » Quand les deux sont en contradiction puis que des fois, elle n'a peut-être pas à obéir pour pouvoir obéir à Dieu. Mais si elle se soumet, ce n'est pas parce qu'elle est inférieure, mais parce qu'elle désire que sa relation avec son mari soit le reflet de ce que le mariage était voulu, conçu, représenter, la relation entre Christ et l'Église. Et la même chose, Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église, et qui s'est livré lui-même pour elle. Et peut-être que le mari n'aurait pas le goût de se livrer lui-même et d'aimer sa femme à ce point-là. Mais dans le fond, dans le mariage actuel, c'est pas ça la réalité qui pointe vers une image de Jésus avec son Église. L'image, c'est le mariage. La réalité éternelle, c'est la relation de Christ avec l'Église. Et c'est pour ça que l'image temporaire, imparfaite, peut-être difficile à vivre, ne représente qu'une illustration de la réalité de la relation entre Jésus et l'Église. Et c'est ça, si Dieu a donné le mariage, c'était pour enseigner quel type d'amour qui devrait exister, que Dieu désire comme intimité avec son peuple. Ça ne veut pas dire que ça dévalorise le mariage actuel en disant « Écoute, le mariage, c'est juste une image, un exemple, une métaphore. » Non, mais si je vis le mariage en lui donnant son vrai sens, qui n'est pas un but en soi, mais c'est simplement un but qui représente ce qui va être vécu plus tard, et que je le vive à cette hauteur-là, à cette qualité-là, ça va valoriser mon mariage, plutôt que simplement d'en faire un but en soi, mon mariage, comme une idole, puis de vivre pour ça, non, il y a quelque chose de plus. Et de le vivre comme Jésus l'aurait fait, et comme l'Église envers Jésus, ça rajoute quelque chose au mariage. C'est ça que c'est censé représenter aussi. Afin de la sanctifier en la purifiant et la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Et que ça devrait être un souci du mari, le bien de sa femme, son progrès, comme ça en était un pour Jésus. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Et là, j'ai mis en vert le fait que l'Église est le corps du Christ, mais que le mari devrait aimer sa femme comme il s'aime lui-même, comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair. Mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps, le corps du Christ. Et là, donc, à chaque point, il fait le parallèle de ce que le mariage devrait représenter. Et si j'agis maintenant dans mon mariage, c'est pour ce que ça représente plus tard, ou spirituellement. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et là, ils disent qu'il y a quelque chose, il y a une relation privilégié avec sa femme qui ne vit pas avec son père et sa mère et qui passe par-dessus celle de son père et sa mère. Et quand on devient chrétien, même la relation familiale avec notre père et notre mère prend un aspect secondaire et ce qui passe en premier, c'est la relation avec Jésus. Donc, les deux situations sont parallèles et les deux, dans le couple, deviendront une seule chair. Donc, il y a une intimité là qui se vit, qui est spéciale, particulière, qu'on ne vivrait pas avec d'autres membres de la famille, notre père, notre mère, et qui va avoir, pareillement, quelque chose de spécial et d'intime qui va se vivre avec Jésus et qu'on ne vivra pas dans d'autres relations. et qui va avoir plus d'importance que dans toutes les autres relations comme intimité. Et là, je trouve que ça va loin de comparer la relation de couple, que les deux deviendront une seule chair, à la relation d'intimité que Dieu désire avec nous, les croyants. Et c'est ça que le mariage est appelé à représenter. Et il dit, quand vous vivez le mariage, c'est comme un jeu de rôle peut-être, parce que ça représente une réalité plus grande, éternelle. Mais quand vous faites votre jeu de rôle comme un acteur, faites-le pas à la limite de vos émotions que vous avez pour votre femme ou pour votre mari, mais à la hauteur de ce que ça doit représenter dans la réalité. C'est comme si je joue un rôle de Roméo ou Juliette, ben je dois aimer Roméo ou Juliette à la hauteur de ce que Roméo ou Juliette aimerait l'autre, et non pas moi comme l'acteur, si j'aime pas bien la Juliette qui est là. Non, j'ai pas à me limiter à mes émotions que je ressens envers l'actrice Juliette, mais à l'aimer à la hauteur de ce que ça représente, de ce que Roméo devrait aimer Juliette dans la vraie pièce de théâtre. Donc, il revient ici, là, ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église, et qui ne veut pas rabaisser aucunement ni l'homme ni la femme dans leur relation de mariage, mais il veut qu'en tant que chrétien, que pour lequel Christ a tellement fait, qu'on se sacrifie nous-mêmes pour représenter cette relation-là qu'on va vivre bientôt par la foi. Et qu'on la démontre. Est-ce que la femme est donc soumise dans le mariage parce qu'elle est inférieure? Pas du tout. Est-ce que l'homme se sacrifie parce qu'il est inférieur? Pas du tout. Mais ils jouent ce rôle-là pleinement, et que ça bénit leur mariage en plus de ça, mais ils jouent ce rôle-là pleinement pour que ça représente bien, que ce soit éducatif de la relation que Dieu, l'intimité que Dieu veut avec nous. Et puis, le mariage est une métaphore comme les sacrifices d'animaux en sont une aussi. C'est juste un exemple, les sacrifices d'animaux. Un peu comme le mariage, c'est juste un exemple. Peut-être que notre mariage est un exemple bien imparfait. Et puis, on pourrait dire la même chose pour les sacrifices d'animaux qui sont le symbole de la mort de Jésus. L'exemple... Le sacrifice des agneaux ont aidé les Juifs à comprendre que Jésus était l'agneau de Dieu, ou aurait dû les aider. Mais les animaux, les agneaux ne sont pas parfaits. Les agneaux peuvent être tout sales. Ils passent une bonne partie de l'année dehors dans le champ. Ils ne sont pas de valeur identique aux humains. Les agneaux ne donnent pas leur vie volontairement, comme Jésus l'a fait sur la croix. Fait que c'est toute une image imparfaite, mais c'était quand même une image utile. Puis si le Juif il regardait l'agneau attentivement, il disait « Ouais, c'est ça qui va effacer mes péchés », ça n'a pas l'air très bien efficace ou avoir une vertu ou pour payer pour mes péchés. Mais c'était quand même utile pour enseigner le principe d'une victime innocente qui mourait pour le coupable. Et la même chose, peut-être que mon mariage n'est pas à la hauteur du symbole qu'il est, ou de la métaphore qu'il est, de l'intimité que Dieu veut vivre avec moi, avec nous les croyants, mais il est quand même utile pour nous enseigner des choses. Quand un mariage marche bien et qu'il y a un amour sincère, bien, c'est vraiment un bon reflet de l'intimité que Dieu veut avec nous, qui voudrait. Et puis, juste de se dire que Dieu aurait pu nous créer là, sans capable de se reproduire aussi de manière asexuée, parce qu'il y a plein d'espèces animales ou végétales qui se reproduisent sans avoir deux partenaires, sans avoir de relation homme-femme ou mâle-femelle. Si on prend des étoiles de mer qui se subdivise et qui pousse d'autres petits bras ici, ou les plantes qui se subdivisent comme ça, sans nouvelles semences. Toutes sortes d'animaux, comme le varan de Komodo, ou certains requins, des lézards, des sauterelles, des arbres, et puis des puces d'eau. Dieu aurait pu nous créer comme ça. Ou est-ce qu'on n'ait pas eu besoin de cette relation de couple? Non. Pour lui, c'est important qu'il puisse avoir une vraie relation de couple, ou est-ce qu'un vrai amour, et qu'on soit en place pour être des bons acteurs qui représentent la relation d'intimité que Dieu veut avec nous, et que Dieu va vivre un jour avec nous, quand l'agneau aura son mariage avec l'épouse. Et il veut que notre mariage, notre union, soit une belle représentation de ça. Et il demande que la femme joue le rôle que l'Église va jouer, que le mari joue le rôle que Jésus a joué. Et là, ça prend tout son sens, qu'on ne le joue pas pour nous, quoique ça fasse du bien au mariage. Mais si on le fait comme croyant, on le fait d'abord pour la réalité que ça démontre. Comme l'agneau, qui n'est pas parfait, mais qui démontre quand même de façon efficace ce que Jésus va faire pour nous. Mais quand on lit que la femme se soumette à son mari, ce n'est pas parce qu'elle est moins importante, qu'elle a moins de dignité, mais pour qu'elle soit une image vivante de ce que l'Église doit faire envers son Sauveur, celle de se soumettre à son Sauveur. Et pareillement, l'homme, on lui demande encore plus dans cette relation-là, doit aimer sa femme et se livre sacrificiellement pour elle, pour être aussi une image fidèle de ce que Jésus a fait pour nous. Fait qu'il n'y a pas question de supériorité ou d'infériorité là-dedans. Et là, j'aimerais revenir en concluant sur la fête des mères, que de dire que la relation de maman avec son enfant, c'est aussi une autre métaphore, une autre image de quelque chose de spirituel qu'on trouve dans l'abîme. Des fois, Jésus et Dieu se comparent à un père envers son enfant, ou d'autres fois à une mère, comme dans Ésaïe 49, 15. C'est dit, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite, n'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles, quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai pas. Il faut même se comparer à des poules. Jésus, comme une poule, rassemble ses poussins sous ses ailes. J'ai tenté de vous rassembler, de vous amener à Dieu. Et que ça, donc, la relation maman-enfant est aussi une image qui représente quelque chose d'autre de plus grand. Et que ça représente à quel point Dieu peut nous aimer quand que nous, on peut aimer notre enfant. Ce que tu vis, toi, comme parent, pense que ça représente ce que Dieu ressent envers toi, comme son enfant. Et puis même si la qualité de nous, de notre relation parent-enfant, est simplement une pâle copie, mais quand même c'est efficace pour nous enseigner le principe de l'amour de Dieu pour nous. Et puis j'aimerais terminer en mentionnant que on sait des fois qu'à la fête des mères, c'est particulièrement difficile pour les femmes qui n'ont jamais eu d'enfant ou celles qui ont perdu un enfant ou des enfants et qui ne fêtent pas la fête des mères. Et peut-être que leur consolation peut être de dire, écoute, si je n'ai pas l'image imparfaite, je peux avoir la réalité de ce vers quoi pointe l'image de l'amour d'une mère pour son enfant. Je peux avoir la réalité de l'amour de Jésus pour moi, de Dieu envers moi. Et puis, quand on a cette réalité-là et qu'on va l'avoir pleinement, c'est comme la maman qui ne veut plus jouer avec des poupées quand elle a un vrai bébé. Parce que le vrai bébé, l'amour qu'elle a pour le vrai bébé est de beaucoup plus l'amour qu'elle pourrait avoir pour une poupée. Et donc de réaliser que c'est ça qui nous attend. Écoute, même si je n'ai pas l'image, si je n'ai pas le symbole, je vais avoir bientôt la réalité de l'amour de Dieu à 100% que je vais vivre. Et puis, quand on va rencontrer ce bébé-là, et que l'amour de Dieu va nous remplir, on va oublier les poupées qu'on n'aura jamais eues, qu'on n'aura jamais la poupée qui représente l'image ou le symbole de la vie de famille qu'on peut avoir et qu'on fête à la fête des mères. Et qu'on n'aura peut-être jamais eu, pour certaines, l'image, mais on pourra avoir la réalité. Et que Dieu nous remplisse déjà de cette réalisation-là. On va finir en priant. Seigneur grand Dieu, merci que on est important pour toi, que tu es venu nous chercher, que tu te révèles à nous, qu'on soit homme ou qu'on soit femme, et qu'on a la même importance et la même dignité à tes yeux. Et ce que les incroyants peut-être comprennent pas, réalisent pas, en quoi le mariage chrétien est une image de l'union, de l'intimité, c'est même presque embarrassant entre un homme et une femme que tu vas vouloir vivre avec nous et qu'on va vouloir vivre avec toi. Une intimité unique et réaliser ton amour, s'approprier tout ton amour. Et même comme relation parent-enfant, si on ne l'a jamais vécu ou si on l'a mal vécu, Seigneur, on sait que tout ça pointe vers un cadeau que tu nous réserves, de réaliser pleinement ton amour envers nous. Et on veut te remercier pour ça, donner gloire à ton nom, pour ces merveilles. En nom de Jésus. Amen.